Salut les boss, bienvenue dans l'épisode numéro 11. Alors, dans l'épisode précédent, on avait essayé de comparer le Bitcoin avec l'or et je vous avais donné mon avis sur la question. Je vous avais dit que pour moi, le Bitcoin était supérieur à l'or. Bon, ça n'est que mon avis. Et aujourd'hui, on va poursuivre un peu cette réflexion parce qu'après tout, si on considère que le Bitcoin est à la fois une monnaie et à la fois un actif, ça peut être intéressant de le comparer aussi avec les autres types d'actifs qui existent. Voilà, parce que en fait, le Bitcoin peut être considéré comme une monnaie d'échange classique, parce qu'on peut déjà acheter des choses aujourd'hui avec du Bitcoin, mais on peut aussi le voir comme une monnaie de réserve, c'est-à-dire un petit peu comme un lingot d'or qui ne bouge pas et qui reste dans un coffre-fort. Et c'est pour ça que là, dans ce cas précis, je parle d'actifs. Et donc aujourd'hui, on va se demander si le Bitcoin est un actif supérieur à l'immobilier. Je sais que l'immobilier, ça intéresse aussi beaucoup de monde, moi y compris. Donc qu'est-ce qui se passe si on compare le Bitcoin à l'immobilier et que choisir entre les deux? Bitcoin ou immobilier, les avantages et les inconvénients de chacun. On voit ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. Rebonjour à tous. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'immobilier, traditionnellement, c'est l'actif par excellence. Il est très bien perçu par les gens, il est très rassurant, c'est du solide, c'est très sécurisant parce qu'on peut le toucher, on peut le sentir. Il faut aussi reconnaître que souvent, les gens qui ont le portefeuille le mieux garni, ceux qui possèdent les plus gros comptes en banque, sont ceux qui possèdent le plus de biens immobiliers. Sur ces 30 dernières années, les biens immobiliers ont pris énormément de valeur, comme tout le monde le sait. Et puis, mettre un appartement en location, c'est un moyen de générer ce qu'on appelle des revenus passifs, c'est-à-dire des rentes. Par exemple, le Vatican est un des plus gros propriétaires d'immobilier dans le monde. Donc, même s'il ne possède aucune industrie, il profite de cette rente immobilière, il profite de ce revenu passif qui tombe comme une horloge automatiquement à chaque fin de mois. Mais c'est un empire qui s'est bâti sur des siècles. Faut pas l'oublier parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui s'inscrit sur un temps long, voire sur des générations. Donc, l'immobilier, c'est long, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant. Il faut savoir aussi que quand vous vous endettez pour acheter un bien immobilier, premièrement, c'est la banque qui vous prête de l'argent. Donc, vous n'utilisez pas votre propre argent. C'est ce qu'on appelle le levier bancaire. Donc, ça, c'est un très, très gros avantage. Deuxièmement, le bien immobilier va être payé par des locataires, c'est-à-dire qu'il va être remboursé, pas par vous, mais par le locataire. Donc l'immobilier constitue ce qu'on appelle de la bonne dette. Vous vous endettez avec l'argent de la banque et c'est quelqu'un d'autre qui rembourse votre crédit à votre place. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, il y a énormément de chaînes YouTube sur le sujet, il y a énormément de livres et je vous invite à lire ou à écouter notamment Robert Kiyosaki, il est célèbre pour avoir écrit le best-seller Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre en français. Et c'est quelqu'un de vraiment intéressant qui a aidé beaucoup de débutants à mieux comprendre le business et l'économie en général. C'est quelqu'un qui possède des milliers d'appartements. Il a fait beaucoup d'achats immobiliers, notamment en 2008 au moment de la crise des subprimes. Je crois qu'à ce moment-là, il a acheté pour 300 millions de biens immobiliers quand le marché était au plus bas. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est aussi converti au Bitcoin, d'ailleurs, assez récemment. Et donc, il sait de quoi il parle. Il a des avis vraiment intéressants sur les banques centrales, sur la monnaie papier, sur ce qu'est un actif. Et je vous en dis pas plus, simplement, je vous le recommande. Je vous mets un petit lien Amazon en description si ça vous intéresse. Donc, pour revenir à notre sujet, les Français aiment la pierre et aiment l'immobilier en général. Mais il y a quand même un revers à cette médaille. Alors pour commencer, le souci, c'est que tu peux tomber sur un locataire qui ne paye pas son loyer. Et là, c'est assez problématique, en particulier si tu vis en France, parce qu'en France, le locataire est excessivement protégé par la loi. Bon, d'autre part, comme on le sait tous, la France est le pays le plus taxé au monde. D'ailleurs, c'est peut-être l'endroit le plus taxé de la galaxie, probablement. Il y a des taxes sur tout. Il y a même une taxe sur les abris de jardin. Donc on est victime, on va dire, de la fiscalité socialiste, et ça handicape toute l'économie du pays. En particulier, je pense aux petites et moyennes entreprises. Ça fait fuir les investisseurs, on le sait tous, parce qu'en règle générale, les investisseurs investissent toujours là où ils sont le mieux traités et ils quittent les endroits où on les traite mal. Mais bon, c'est un fait, c'est comme ça, les gens semblent résignés. Du coup, aujourd'hui, en France, tout est déjà taxé au maximum. Mais, il reste encore quand même sans doute un secteur où les impôts peuvent encore probablement continuer à augmenter dans le futur, et c'est dans l'immobilier. Bingo! Parce que le truc, c'est que l'immobilier n'est pas délocalisable, contrairement à certaines industries. Et donc, c'est un des seuls leviers qui reste encore au fisc et au gouvernement français pour vous tondre encore un peu plus. Alors, on peut se consoler en regardant du côté des États-Unis. Là, cet été, je lisais sur Twitter que le fisc américain, l'IRS, allait recruter 87 000 nouveaux employés. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quand même quelques différences avec la France, notamment en matière d'emprunt bancaire. En fait, pour tout vous dire, les crédits immobiliers aux USA sont remboursés à taux variable. Et justement, en quelques semaines depuis le début de l'année, les taux ont augmenté beaucoup. Et par conséquent, les mensualités des emprunteurs américains sont remontées aussi en flèche. Et je pense que le fisc américain anticipe par rapport à des incidents, par rapport à des défauts sur les remboursements de crédits bancaires des ménages américains qui devraient malheureusement se produire dans les mois qui viennent. Donc pour vous donner une idée, dites-vous que les ménages américains ont remboursé en moyenne 1 700 $ par mois de crédit IMO en fin d'année dernière et dites-vous qu'aujourd'hui en septembre 2022, les ménages remboursent désormais 2 400 $ par mois. Donc ça fait en moyenne 700 $ de plus à sortir tous les mois en moyenne pour les ménages américains. C'est vraiment super violent comme augmentation. Et voilà, tout ça, ça se passe maintenant. Et l'Américain moyen ne peut rien y faire. Bon, si on revient à ce qui se passe en France dans l'immobilier, nous on a beaucoup de contraintes aussi d'ordre réglementaire. Pour ceux qui s'intéressent déjà un peu à l'immobilier, vous savez sans doute ce qu'est un DPE. Le DPE, c'est en fait le diagnostic énergétique de votre logement. Et donc les logements classés E, F ou G ne pourront bientôt plus être loués. Dans quelques temps, ça va venir très vite, car ils sont désormais considérés comme trop énergivores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de nouvelles lois liées à la transition énergétique qui imposent des mesures drastiques en termes d'isolation aux propriétaires. C'est-à-dire que si vous louez des logements anciens, vous allez être vraiment rapidement emmerdé avec ça et vous avez des chances de ne plus être aux normes. Et donc, vous risquez de ne plus avoir le droit de louer votre appartement si vous n'êtes pas d'équerre avec ces nouvelles normes. Et donc, on sait qu'en France, paradoxalement, il y a pourtant une pénurie de logements. C'est ça qui est complètement dingue. Bref. Il y a aussi un autre inconvénient avec l'immobilier, c'est que quand on achète un bien, on doit débourser une grosse somme d'argent. Et donc, on engage généralement un très gros investissement. Il faut souvent un apport, d'ailleurs, que tout le monde ne peut pas se permettre d'engager. Et ça nous amène enfin aux avantages du Bitcoin, parce qu'avec le Bitcoin, tout le monde peut se payer une petite fraction de Bitcoin. Vous pouvez acheter un centième, un millième de Bitcoin selon vos moyens. C'est-à-dire qu'on peut investir 20 euros ou 50 euros, c'est-à-dire qu'on peut investir de très petites sommes. Le Bitcoin est très liquide, tandis que la pierre ne l'est pas du tout. Comme son nom l'indique, la pierre est l'opposé du liquide. D'autre part, si vous avez plusieurs biens immobiliers, souvenez-vous bien que, en comparaison, vos Bitcoins ne sont pas taxables. Tout du moins, pas tant que vous ne les reconvertissez pas en euros. Ils sont aussi insaisissables, en particulier si vous les stockez sur un cold wallet, comme le Ledger par exemple. J'en profite pour préciser que vous devez être évidemment le seul à avoir vos clés privées. Je le rappelle souvent, je fais une petite parenthèse à nouveau là-dessus. J'ai déjà parlé du Ledger dans mes épisodes, mais pas suffisamment longuement. Mais vous devez absolument posséder un cold wallet pour être en mesure de sortir vos bitcoins des plateformes d'échange. Vos bitcoins n'ont rien à faire sur un exchange. Ils ne doivent pas être captifs d'une plateforme financière. La philosophie du bitcoin, c'est d'être sa propre banque. Il n'y a pas de SAV si vous faites une connerie, donc ça implique d'avoir un peu de discipline. Vos coins doivent donc être dans votre propre coffre-fort personnel. Alors bien sûr, ne stockez pas votre phrase seed au même endroit que votre ledger. On ne stocke pas la combinaison d'un coffre-fort au même endroit que le coffre-fort. Il y a certaines précautions à prendre. Faites vos recherches. Il y a énormément de vidéos à ce sujet. J'en parlerai peut-être plus longuement un jour. Mais voilà, je referme la parenthèse. C'était important de le dire. Donc, le Bitcoin a aussi d'autres avantages, je disais, par rapport à l'immobilier. Par exemple, il peut traverser n'importe quelle frontière sans aucun problème. Voilà, ça peut être utile un jour à certains parce que la réalité, vous le savez, c'est qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Malheureusement, on sait qu'en France, les lois peuvent changer du jour au lendemain. On sait que la fiscalité peut augmenter drastiquement. Mais heureusement pour toi, ils ne pourront pas te prendre tes bitcoins, en particulier si tu les as placés, comme je viens de te le dire, sur un cold wallet. Ouais, je suis un peu lourd d'insister là-dessus, mais c'est important de bien le comprendre. Parce que si un jour la plateforme d'échange est inaccessible, eh ben, ce jour-là, tu n'auras plus accès à tes bitcoins. Voilà, bon, sinon, autre avantage du bitcoin, si un jour tu décides de vendre tes bitcoins pour une raison X ou Y, tu peux les revendre à n'importe qui dans le monde très rapidement, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Bien évidemment, revendre son bien immobilier, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se fait pas en un clic de souris, ça c'est certain. Ça sera beaucoup plus long, il faudra passer chez le notaire, etc. Donc, c'est comme ça, le Bitcoin est un actif qui est transportable et échangeable très facilement. Et c'est pour ça que le Bitcoin est probablement le meilleur actif du monde actuellement, dans le sens où c'est le plus souple, le plus flexible et le plus innovant. Donc, je reformule, si l'État actuellement en faillite, il faut le rappeler, se met à taxer demain ton immobilier, tu es bloqué, c'est mort. Tu ne peux pas déménager ton immeuble dans un autre pays, tu ne peux pas déplacer la tour Montparnasse à New York, d'accord ? Si ton appartement se trouve actuellement à Kiev, tu ne peux pas le téléporter aux États-Unis ou dans un autre pays. Tu ne peux pas dissimuler une maison dans un cold wallet. Tu ne peux pas la cacher dans un coffre-fort virtuel. Mais avec le Bitcoin, c'est quelque chose de possible. Donc pour moi, du fait qu'il est un actif immatériel, le Bitcoin est le meilleur investissement, tout simplement parce qu'il est facile à revendre, rapide à revendre, facile à déplacer vers un cold wallet ou vers une autre adresse. Il est facile à téléporter n'importe où sur le globe, mais il est également difficile à voler et difficile à taxer. En plus, il y a aussi un énorme avantage qui n'est vraiment pas négligeable, c'est qu'il se met à jour automatiquement. Le Bitcoin continue à évoluer constamment et toi, tu n'as pas de frais de maintenance à payer. Pas de dépenses, pas de frais de rénovation à engager. Tu n'as pas de frais de copropriété comme avec un immeuble, par exemple sur lequel tu vas devoir refaire la toiture ou refaire un ravalement, ou payer un gardien, réparer un tuyau d'eau qui fuit, faire réparer une serrure, réparer le système de climatisation très coûteux, etc. En fait, il faut avoir conscience que ton immobilier va te demander énormément plus de temps et d'efforts que tes bitcoins. En sachant, au passage quand même, que le temps, c'est finalement peut-être, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter. Et malgré tout ça, au final, ta maison ou ton bâtiment, au bout du compte, finira probablement par être détruite au bout d'une centaine d'années, puisque c'est la durée de vie moyenne d'une maison ou d'un bâtiment. Alors voilà, je sais que beaucoup de personnes aiment bien diversifier leurs actifs et équilibrer les risques dans leur patrimoine, ça se comprend, mais franchement, on est quand même obligé de reconnaître que le Bitcoin a énormément d'avantages par rapport à l'immobilier. Ceux qui possèdent un bateau peuvent comprendre ça aussi très bien. Un bateau, ça peut aussi être considéré comme un actif, mais il faut savoir que le coût d'entretien d'un bateau, le coût de stationnement, le coût d'amarrage, c'est pas du tout, mais alors pas du tout quelque chose de négligeable. Voilà, alors il y a encore aussi une chose qu'on peut souligner, c'est la question de la rareté. Donc ça, c'est une notion très importante dans le Bitcoin. On sait que la quantité de Bitcoin disponible sera limitée pour toujours à 21 millions. Or, on sait que la rareté d'une chose, c'est ce qui fait sa valeur. Lorsqu'il n'y a plus d'abondance, cela signifie que le produit concerné devient rare et donc qu'il devient cher. Quand on parle de la fin de l'abondance, vous comprenez sûrement à qui et à quoi je fais allusion. Eh bien oui, évidemment, on parle de ça. Voilà. Et oui, et donc, évidemment, si on trouvait des diamants sur le sol par terre à tous les coins de rue, ces diamants n'auraient plus aucune valeur. Ce serait de simples cailloux. Et justement, d'une certaine façon, l'immobilier n'a pas de limite. Il y a toujours de nouvelles tours qui se construisent un peu partout. Et il y a toujours de nouvelles résidences qui sortent de terre. Par contre, on sait que quand un bien est limité à une quantité fixe, alors sa valeur augmente à cause de sa rareté. L'or est cher parce qu'il est rare. Et du fait de cette rareté, la valeur du Bitcoin devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années et au cours des prochaines décennies. Alors que l'immobilier n'est pas quelque chose de rare en soi. C'est quelque chose finalement qui est sans limite. Mis à part les biens d'exception, en bord de mer par exemple, ou avec une vue sur la tour Eiffel, mis à part certaines exceptions, on va dire, sur le marché du luxe, l'immobilier n'est pas quelque chose de rare. Il est au contraire en constante expansion sur la planète. D'ailleurs, vous avez dû remarquer ça au niveau des prix des villas. Plus elles sont proches de la mer, plus elles sont chères. C'est le célèbre Dan Peña qui nous fait remarquer ça. On nous rabâche à longueur de journée que le réchauffement climatique va faire monter le niveau de la mer, mais pourtant les gens se battent toujours, malgré tout, pour faire construire au plus près de la mer leur villa et pour que leur construction ait les pieds dans l'eau. Alors c'est partout pareil, que ce soit dans le sud de la France ou dans la Floride, c'est valable partout. On construit des villas, les pieds dans l'eau, et les banques continuent à financer les emprunts, les assureurs continuent à assurer ces villas, malgré, vous savez, la fonte de la calotte glaciaire, l'apocalypse, la fin du monde à venir qu'on nous promet sans cesse depuis des années. Bref, je comprenne qui pourra, je trouve ça très drôle, je me lance pas dans ce débat aujourd'hui. Je vous donne aussi un autre exemple, plus personnel. On avait acheté des bureaux près de Disneyland Paris, en Seine-et-Marne, dans le 77, en 2010, avec mon associé. C'est l'endroit le plus dynamique de France sur le plan démographique. Donc les perspectives étaient excellentes. Mais on a revendu en 2019, juste avant le Covid, on a eu beaucoup de chance. Donc 9 ans plus tard, et malheureusement pour nous, on a dû revendre moins cher que ce qu'on l'avait payé 9 ans auparavant. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de nouveaux immeubles et de nouveaux bureaux qui s'étaient construits partout tout autour de nous et qui avaient fait baisser le prix de nos bureaux. Et donc, non seulement le Bitcoin est un actif qui va rester rare, contrairement à l'immobilier, mais en plus de cela, finalement, c'est aussi quelque chose qui est assez simple à gérer, il n'y a rien à faire. Le Bitcoin est beaucoup plus simple que l'immobilier, malgré le fait qu'on soit sur quelque chose de technologique. L'immobilier, c'est très complexe, parce qu'il n'y a pas un marché de l'immobilier. Il y a des marchés de l'immobilier. Chaque quartier est un micro-marché. L'emplacement, 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 comme on dit. C'est-à-dire que si tu achètes à Paris dans un quartier bobo, ou si tu achètes dans le 19e arrondissement, par exemple, ça ne va pas être pareil du tout. Si tu achètes dans le quartier de Stalingrad, tu sais que tu vas croiser des fumeurs de crack. Tu sais que c'est un quartier où potentiellement peut y avoir des agressions. Tu sais que tu cours aussi plus de risques au niveau des loyers impayés en tant que propriétaire. À l'inverse, je prends l'exemple totalement opposé. Si tu vas à Dubaï, moi j'y étais en vacances il y a quelques mois, et évidemment ça construit partout, mais l'ambiance est totalement différente. Il n'y a aucun tag sur les murs, évidemment, c'est propre, ça brille, il y a des tours de plus de 100 étages partout dans la ville. Moi j'adore, je trouve ça magnifique, mais bon, voilà, tout ça pour dire par là que dans l'immobilier, il y a une multitude de marchés, et du coup, l'offre immobilière est à la fois complexe et quasiment illimitée. Et je voulais terminer sur un dernier point, très important. C'est que dans le contexte d'inflation actuelle, c'est-à-dire quand la monnaie perd de sa valeur, comme en ce moment, l'immobilier, tout comme le Bitcoin, vont permettre de se protéger face à cette perte de valeur. Si l'immobilier et le Bitcoin ont tant augmenté au cours de ces dernières années, c'est parce qu'avant tout, c'est la valeur de l'euro qui descend. C'est-à-dire que fondamentalement, une maison conserve sa valeur dans le temps, mais on va l'estimer, on va la mesurer avec une unité de mesure, l'euro, qui est elle de plus en plus petite. Et donc on a l'impression que la valeur de la maison augmente, mais non, en réalité c'est plus la valeur de l'euro qui s'affaiblit. Et c'est simplement qu'on peut se payer moins de choses avec 100 euros aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans, c'est tout. Aujourd'hui, tu mets moins de produits dans ton caddie qu'il y a 5 ans, avec la même somme. Et avec 250 000 euros aujourd'hui, tu ne peux plus forcément te payer la même maison qu'il y a 10 ans. Tu vas devoir acheter quelque chose de plus petit. Donc c'est peut-être ça le principal point à retenir, c'est que les biens tangibles comme l'immobilier et les biens rares comme le Bitcoin sont les meilleurs outils pour se protéger de l'inflation et pour protéger son patrimoine de la perte de la valeur de la monnaie fiduciaire que l'on constate actuellement. C'est Ray Dalio qui a trouvé une formule pour résumer tout ça. Alors Ray Dalio, c'est quelqu'un qui dirige un grand fonds d'investissement américain qui pèse 140 milliards de dollars. Et donc la formule qu'il a trouvée pour résumer tout ça, c'est cash is trash. En gros, le cash, c'est de la merde, c'est du déchet. Donc voilà les amis, c'était pour vous donner un petit peu mon avis sur la question. Pour moi, il n'y a pas photo, l'immobilier, c'est un super type d'actif. Mais compte tenu de tout ce qu'on vient de voir, le Bitcoin est tout de même pour moi supérieur à l'immobilier parce que c'est quelque chose de beaucoup plus innovant. Le Bitcoin est plus disruptif. Je pense que c'est le seul investissement qui potentiellement peut changer complètement ta vie. Il n'y a qu'avec le Bitcoin que tu pourras espérer faire 1 x 50 ou 1 x 100 d'ici à ce qu'il arrive à maturité dans quelques années. Et donc pour moi, on va dire que c'est le Bitcoin qui remporte une nouvelle fois ce match. Et j'invite tout le monde à commencer à songer à stacker des Satoshis. Même si tu as l'impression de démarrer un peu tardivement, l'idée n'est pas de se comparer aux autres, l'idée n'est pas de se dire qu'un tel ou un tel possède plus de Bitcoin que moi, l'idée c'est de commencer son propre voyage, commencer cette quête pour soi-même. Je veux dire par là que c'est un peu comme si tu démarrais la course à pied, l'idée au départ n'est pas de comparer ses performances avec celles de Usain Bolt, mais l'idée est d'améliorer ses propres performances par rapport au niveau qu'on avait soi-même auparavant. Et donc, comme d'habitude, je vous invite à suivre les liens que j'ai mis en description. Suivez ces liens, lisez, creusez le sujet, continuez à faire vos propres recherches et lancez-vous. Et pour ma part, je m'arrête là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, merci et ciao les boss.